en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci de nous retrouver sur Canal Académie. 40 fauteuils à l'Académie française, vous le savez, dont chacun a une histoire étant donné la notoriété de ses titulaires au fil des siècles, et cela depuis 1635. Et peu à peu, Canal Académie complète la liste de l'histoire de ces fauteuils de l'Académie française grâce à Mireille Pastoureau, conservateur général et directeur de la bibliothèque de l'Institut, qui rédige cette histoire et qui organise, au moment de chaque nouvelle élection, une exposition des quelques trésors, objets et livres, bien sûr, que possède cette bibliothèque. Bonjour Mireille Pastoureau.
Bonjour Hélène.
Je suis toujours ravie de vous recevoir. Nous avons déjà 10 émissions sur 10 fauteuils. Celle-ci est donc la 11e sur un fauteuil qui est le 32e fauteuil de l'Académie française. Le 16 juin 2011, François Veillargans sera reçu sous la coupole et il fera l'éloge de maître Maurice Reims, bien qu'il soit en réalité le successeur d'Alain Robbe-Grillet, mais Alain Robbe-Grillet n'avait pas été reçu sous la coupole. Alors nous allons détailler avec vous les titulaires de ce 32e fauteuil. Ça commence par le premier, très connu je crois, Vaugelas.
Vaugelas, ou alors c'est un grand nom pour l'Académie, c'est un grammairien et il a été responsable du dictionnaire de l'Académie française pendant très longtemps et c'est lui qui a défini un peu les règles de la langue française. Il n'appelait pas ça des règles, c'était le bon usage. Vous savez que l'Académie française dicte l'usage, le bon usage, et cette habitude vient de Vaugelas qui avait choisi comme bonne langue, comme meilleure langue, la langue la plus pure, la langue de la noblesse parisienne et en premier lieu la langue de la cour. Voilà, il appelait la cour ce magasin de la langue et c'est lui donc qui a dicté le bon usage de la langue française.
Cour qui est la cour de Louis XIII à l'époque, faut-il le préciser. Donc Vaugelas a mis 30 ans à rédiger son dictionnaire ou ses remarques sur la langue française utile à ceux qui veulent bien parler et bien écrire.
Voilà, il a publié ce livre qui est une sorte de bible de la langue française au XVIIe siècle et d'autres académiciens participaient aussi au dictionnaire. Mais c'est lui qui en avait la responsabilité. Et il y a une petite anecdote, lorsqu'il est mort en 1650, il était malheureusement insolvable et ses créanciers avaient emporté tous les manuscrits, y compris celui du dictionnaire. Donc c'est l'Académie qui a dû faire beaucoup d'efforts pour récupérer son dictionnaire en gestation.
Elle y est parvenue.
Ce qui n'a été publié qu'en 1694, donc c'était seulement des dossiers préparatoires.
Alors le deuxième occupant de ce fauteuil n'est pas moins célèbre puisqu'il s'agit de Scudéry. Mais alors, ce n'est pas mademoiselle,
c'est le frère. C'est le frère. Et on dit que c'est elle, en réalité, qui a écrit beaucoup d'ouvrages de Georges, de son frère, notamment les romans. Lui, c'était un homme à panache, une famille noble provençale. Il avait fait carrière dans les arts, mais alors après, il est allé à Paris, à la cour, il a fréquenté les salons, et il se vantait beaucoup. Il a écrit beaucoup, il a fait des poésies, des romans, des œuvres dramatiques, et il a été élu à l'Académie française.
Et il était aussi gouverneur du fort de Notre-Dame-de-la-Garde, près de Marseille. Voilà, c'était pour nos amis marseillais.
Très bien, pendant quelques années. Il est descendu là-bas avec sa sœur, mais il est revenu parce qu'il jugeait qu'on ne lui donnait pas assez de moyens pour tenir son rang. Donc, il ramenait tout le monde à Paris.
Alors, le troisième personnage, il est un peu moins connu, Philippe de Courcillon, marquis de Dangeau. Alors, celui-ci appartenait à la fois à l'Académie française et à l'Académie des sciences. Et il est surtout intéressant parce que c'est un personnage qui s'est intéressé au jeu de cartes.
Ah oui, c'est étonnant parce qu'il s'est fait connaître, par son habileté au jeu de cartes à la cour et que ces jeux tenaient une grande part dans la vie de cour. Et aussi parce qu'il a pris des notes, il a rédigé un journal qui n'a pas été publié de son vivant. C'est le fameux journal de Dangeau qui a été publié par extrait petit à petit au XVIIIe siècle et qui n'a été publié intégralement qu'au XIXe siècle. Et c'est ce journal qui a servi servi de fondement à Saint-Simon pour les propres mémoires de Saint-Simon. Donc ce journal de Danjou avait beaucoup d'importance. Et il faut noter la durée de Danjou à l'Académie, 53 ans. Il est resté 53 ans
académicien. Un jour on fera un palmarès.
Et oui, et le successeur, vous allez voir, est resté encore plus longtemps. C'est un personnage tout à fait étonnant.
Donc c'est un fauteuil sur lequel on a le droit de rester très longtemps. Avis à Monsieur Veillargans qui va désormais s'asseoir sur ce numéro 32. Alors, on va passer au suivant qui lui porte un nom très connu, le quatrième titulaire, mais il ne faut pas le confondre avec son ancêtre. Donc, c'est Louis-François Armand Duplessis de Richelieu.
Oui, tout à fait. Ah oui, c'est quelqu'un d'étonnant. Donc, il est resté 68 ans sur son fauteuil à l'Académie, c'est extraordinaire. Il a été élu à 24 ans et il connaissait à peine l'orthographe. Il a fait faire son discours naturellement par d'autres auteurs. Il l'a recopié tant bien que mal. Et malgré cela, il a tenu son rang. Il avait un certain sens politique. Et il était devenu aussi membre honoraire de l'Académie des sciences. Et il est mort doyen de l'Académie française.
Arrière-petit-neveu du
cardinal. Arrière-petit-neveu du cardinal. Voilà. Maréchal, il était le troisième duc de Richelieu. Voilà, maréchal de Richelieu.
Le suivant, le cinquième, c'est François-Henri d'Harcourt, donc qui appartient à cette très ancienne maison d'Harcourt, attestée en Normandie depuis le XIe siècle, dont il y a d'ailleurs encore aujourd'hui des descendants.
Tout à fait. Il était duc et pair, comme il y en avait un certain nombre à l'Académie, comme vous savez, oui, oui. Et alors, il n'a pas eu de chance, parce qu'il a été élu à l'Académie française en 1788. Et donc, très peu de temps après est survenue la Révolution française. Alors, il a dû émigrer, évidemment, et il n'est jamais revenu en France. Il est mort en Angleterre en 1802. Donc, il a eu très peu l'occasion de siéger à l'Académie.
Alors, c'était seulement la consolation d'en faire partie, sans doute. Son successeur, c'est Lucien Bonaparte, donc le second frère de Napoléon.
Tout à fait, oui.
Alors qu'il, lui aussi, a eu une vie un peu agitée.
Voilà, donc Lucien Bonaparte aimait sincèrement la vie littéraire. Il avait écrit des ouvrages en prose, en vers, des romans. Il protégeait les hommes de lettres. Mais malheureusement, peu après sa nomination à l'Académie française, car là, il ne s'agissait pas d'une élection, mais d'une nomination en 1803. Il était veuf, il a souhaité se remarier avec une divorcée et le futur empereur, son frère, ne lui a pas donné le choix. Enfin, lui a donné le choix entre le divorce ou l'exil et il a choisi l'exil. Il est donc parti...
Ah, c'est un grand amoureux alors.
Voilà, exactement. Il est parti en Italie où le pape a créé pour lui en principauté la terre de Canino. Il est devenu prince de Canino et il a eu des tas d'aventures. Il a essayé d'émigrer aux États-Unis, mais malheureusement, les Anglais ont capturé son bateau et il n'a pas pu le faire. Et à la Restauration, il a été exclu de l'Académie, comme tous les partisans de Napoléon. Et donc, il a fini ses jours en exil en Italie.
Alors, que possède la bibliothèque de ce Lucien Bonaparte ?
Alors là, nous avons un lot de lettres tout à fait curieuses qui proviennent de son frère Joseph. C'est un ensemble de 900 lettres. Alors, elles ne sont pas toutes de Lucien, mais beaucoup de la famille impériale qui étaient adressées à Joseph Bonaparte. Et ces lettres ont été des prises de guerre lors de la bataille de Vitoria en Espagne qui a été gagnée par les Anglais, le duc de Wellington, la bataille de Vitoria qui a mis fin au règne de Joseph en Espagne en 1813. Et ces lettres ont été restituées, ont été données à l'Institut par un descendant de ce duc de Wellington en 1954. Voilà, à l'occasion de l'entente cordiale. Voilà.
Donc ça fait partie de vos trésors.
Tout à fait, de la commémoration de l'entente cordiale. Voilà, tout à fait.
Alors maintenant, Mireille Passeron, on va peut-être aborder deux académiciens un peu moins connus, mais néanmoins intéressants. Le septième, Louis-Simon Auger, et le huitième, Charles-Guillaume Étienne. Alors ce Louis-Simon Auger... C'était un auteur dramatique?
Exactement. Et voilà, les deux étaient des auteurs dramatiques. Auger était en plus journaliste. Et ce qui montre l'importance de la vie théâtrale à l'époque, tous ces auteurs de théâtre, nous sommes au début du 19e siècle, dans la première moitié, étaient des gloires nationales. Et les portes de l'Académie française s'ouvraient devant ces auteurs dont les pièces étaient jouées très abondamment dans les théâtres aussi bien parisiens que... On ne les joue plus, on ne les connaît plus.
C'est étonnant, oui.
Oui. Et Louis-Simon Auger est même devenu secrétaire perpétuel de l'Académie en 1826. Et malheureusement, il a eu une fin tragique. c'est très rare dans l'histoire de l'Académie. Il a disparu. Alors, on a les comptes rendus de l'Académie dans sa séance, qui est très inquiète, qui dit qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu, qu'on ne sait pas comment on pourra le remplacer. Ça, c'était en janvier 1829. Et un mois plus tard, le 19 février, on a retrouvé le corps d'Auger flottant dans la Seine, à Meulan. Et donc, on pense qu'il s'est suicidé depuis le Pont des Arts.
Ou qu'il est tombé, ou
qu'on l'a poussé.
Toutes les hypothèses sont ouvertes. Voilà un des mystères de l'Académie française qui n'est pas encore résolu. Et son successeur, alors Charles-Guillaume Étienne.
Exactement, donc aussi un poète, auteur dramatique, qui a été élu très vite après Auger, vu les circonstances du décès, donc c'est vraiment le même genre d'homme de lettres, et qui a été exclu à la Restauration en 1816, parce qu'il y a une sorte de purge, comme il avait été élu en 1811 à l'Académie, et donc il a été exclu en 1816 et réélu en 1829, voilà, pour succéder à Auger. Voilà.
Donc élu deux fois.
C'est
déjà pas mal. Alors son successeur, alors lui très connu évidemment, Alfred de Vigny.
Voilà.
Donc,
alors
lui,
là,
il
c'est le grand poète.
Aussi à l'Académie,
il est resté longtemps. Bon, il a eu des relations un peu partagées. Il ne s'entendait pas avec tous les académiciens. Il y avait des jalousies parce que c'était naturellement une gloire nationale, un très très grand poète. Et alors là, nous avons des œuvres tout à fait intéressantes. Déjà, nous avons des manuscrits qui ont été donnés par Madame Ambrière. Vous savez que Madame Ambrière a donné la collection Madeleine et Francis Ambrière, consacrée justement au premier 19e siècle, aux grands auteurs. Donc, nous montrons la préface manuscrite de Quitte pour la peur. Nous montrons des ouvrages et des manuscrits. Et puis, dans une collection que nous avons depuis longtemps, la collection Spellberg de Lovenjoul, nous montrons un très joli livre de poèmes de jeunesse de Vigny qui a été annoté par sa mère, par sa maman, par Madame de Vigny. Et il y a une mention de Vigny qui dit « Sur cet exemplaire, ma mère écrivit des notes très sévères, mais très justes pour la plupart, car ce poème est fort mauvais et n'a d'excuse que ma jeunesse. » Donc ça, c'est vraiment un petit bijou.
C'est très bien. Vous avez des portraits aussi?
Nous avons des
Vigny.
Portraits, voilà, dans la collection Ambrière. C'est important pour nous de recueillir une documentation multiforme sur les membres de l'Institut, sur les académiciens. C'est ce que nous essayons de faire avec des livres, des manuscrits, des dessins, des estampes, des médailles, des objets. Voilà, nous sommes
même
un centre de documentation.
Quelques épées.
Exactement, tout à fait. Très important, les épées, oui.
Alors, le successeur de Vigny à l'Académie française, c'est Camille Doucet, lui aussi auteur dramatique. En
exactement,
voici
tout à fait, voilà, exactement, qui avait été candidat à l'Académie déjà au fauteuil de scribe et qui avait été battu par Octave Feuillet, oui, tout à fait.
Alors,
il
écrivait des vaudevilles, celui-là, c'est parce que c'est une tradition aussi de cette époque.
Exactement.
L'Académie accueillait des auteurs, j'allais dire, un peu légers.
Absolument, Labiche a été membre, tout à fait, et ça ne lui a pas nui puisqu'il est devenu secrétaire perpétuel en 1876, lui aussi. Et on dit que c'était un homme extrêmement agréable et sympathique, qui a un petit peu renouvelé la façon de vivre à l'Académie, qui a fait entrer les artistes qui recevaient, qui ouvraient son appartement, qui avait une vie simple et ouverte. Et il était très bienveillant de nature.
Très bien. Alors, c'est Camille Doucet, on lui doit notamment d'avoir développé un peu les cafés-concerts. Alors, j'ai trouvé ça très amusant, ce que vous écrivez. Et il encourageait les cafés-concerts à s'offrir des costumes, des travestissements, à jouer des pièces, à se payer des intermèdes de danse et d'acrobatie. Et c'est comme ça que sont nés les Folies Bergères et l'Olympia, d'une certaine manière, enfin. En tout cas, ces grandes salles de spectacle.
Tout à fait, tout à fait. Et l'Académie française a su reconnaître ce talent.
Mais voilà, oui. C'est très bien, en effet. Lui succède un Savoyard, parce qu'il y a aussi beaucoup, tout le monde n'était pas né à Paris, bien sûr. L'Académie est très ouverte à tout ce qui compte de gloire dans les provinces. Donc, le marquis Charles-Albert Costa de Beauregard.
Tout à fait. Et il tenait ce prénom de Charles-Albert du roi Charles-Albert de Savoie. Il était dans une famille monarchiste. D'ailleurs, ça a causé un petit peu des soucis au moment de son élection parce que il avait combattu du côté la France, du côté de la maison de Savoie avant l'annexion de la Savoie, avant la réunion de la Savoie. Oui.
Alors, il est suivi sur ce fauteuil numéro 32 par Hippolyte Langlois, qui lui aussi est un académicien un petit peu oublié, qui lui est franc-comtois.
Qui est franc-comtois, qui est purement militaire, c'est un général, l'auteur d'ouvrages, et son grand ouvrage, c'est l'artillerie de campagne.
Voilà, là, que nous avons important. Tous lu.
Voilà. Et il a laissé son nom comme concepteur du canon de 75. Voilà.
Bon.
Et il a dirigé l'école de guerre, voilà.
Oui, il y a aussi souvent à l'Académie française un représentant,
une tradition,
la tradition
oui,
militaire.
Exactement, oui.
Lui succède donc, nous en sommes au 13e titulaire de ce fauteuil, Émile Boutroux, alors qui lui appartenait à la fois à l'Académie des sciences morales et politiques et à l'Académie française ensuite, grand spécialiste de la philosophie.
Exactement, voilà. Donc là, on a un nouveau type d'académicien, si je puis dire. C'est le philosophe qui a laissé un fonds dans notre bibliothèque de l'Institut, un fonds de manuscrits fort intéressant qui a été donné en 1950. Et nous avons notamment ces anciennes dissertations de l'École normale supérieure. C'est une famille où on gardait les devoirs qui sont naturellement couverts d'appréciations élogieuses.
Voilà. Ah oui, alors on lui note très bon travail, vive intelligence de la question, citation habilement choisie, style rapide et distingué. Toute la composition a de l'unité. J'espère que tous les bacheliers de cette année auront un tel éloge sur leur dissertation.
Tout à fait.
Alors, il est suivi par Pierre de Nolhac. Pierre de Nolhac, lui, c'est plutôt un historien.
Exactement, qui allait attacher son nom à la restauration du château de Versailles. Il a été conservateur du château de Versailles et c'est l'un des premiers à avoir contribué à reconstituer les collections du château, notamment avec le mobilier qui avait été dispersé à la Révolution française. Et il est également connu pour ses études sur Érasme, Pétrarque, l'Italie à la Renaissance, voilà. Sa thèse portait sur Pétrarque et l'humanisme. Et également son attachement au Massif central.
D'où il était originaire.
Il était originaire du Puy de Dôme.
Et à Ambert.
Voilà, restait toujours très attaché à son Auvergne natale. Oui.
Et succède à cet historien donc un homme d'église, car c'est aussi la tradition à l'Académie française, il y a presque toujours un homme d'église, le cardinal Georges Grant. Je crois qu'on dit Grant ou Grant.
Oui, Grant, oui, voilà, qui a laissé son nom au dictionnaire des lettres françaises, dont il a dirigé la conception, qui le dictionnaire a fini de paraître après sa mort. Et ce dictionnaire qui est communément désigné comme le Grant, mais il a écrit naturellement beaucoup d'autres ouvrages, souvent sous le titre d'évêque du Mans. Il avait été nommé évêque du Mans et il est resté pratiquement toute sa vie jusqu'à ce qu'il devienne cardinal. Il était très attaché à ce titre. Donc c'est un grand auteur en nombre d'ouvrages.
Et succède à Mgr Grant Henri Massis, historien de la littérature.
Voilà, tout à fait, qui a commencé sa carrière avec divers pseudonymes, nous montrons des ouvrages sous pseudonyme, et qui fut un disciple de Maurice Barrès avant la guerre, qui s'était rapproché de Bergson, s'en est éloigné, se rapprochait de Maurras, mais n'a jamais écrit dans l'Action française. Après la défaite, il est vrai qu'il s'est rallié au maréchal Pétain, mais il n'était pas collaborateur. Ce qui fait qu'il n'a pas été inquiété.
Il n'a pas été inquiété à l'Académie comme d'autres, en effet.
Non, voilà.
Alors, le 17e titulaire, c'est Georges Izard, qui est un homme politique, lui, plutôt.
Oui, un homme politique, grand avocat, journaliste également, essayiste. Il avait été nommé directeur de cabinet de Charles Danielou, sous-secrétaire d'État à la marine marchande, et il a épousé la fille de Danielou. Il a épousé la sœur du cardinal Danielou. Il était inscrit au barreau de la cour d'appel de Paris en 1932. Et c'était un intellectuel engagé. Avec Emmanuel Mounier, il a fondé la revue Esprit, dont il s'éloigna ensuite. Il a participé à divers mouvements politiques. Il a rejoint la Résistance. Et à la fin des années 40, il est revenu au barreau, où son nom a été associé à de grandes affaires. Il a défendu Victor Kravchenko contre les lettres françaises en 1949. Il a défendu Paul Claudel, qui avait été assigné par Maurras. Voilà.
Avocat de grandes affaires, à la fois culturelles et politiques. Et le 18e titulaire, c'est Robert Aron, donc qui n'est pas parent, je crois, avec Raymond Aron, et qui, lui, est un historien.
Tout à fait. Alors, il est connu pour son histoire de la libération, son histoire de l'épuration, mais il avait également de grandes préoccupations religieuses et mystiques. Il a écrit une histoire de Dieu, des ouvrages sur judaïsme et chrétienté, et également sur les grands dossiers de l'histoire contemporaine, sur l'histoire de son temps.
Il a été élu le même jour que Maurice Schumann, c'est pour donner une idée
tout
de l'époque,
fait.
Et il est mort oui. avant d'avoir été reçu sous la coupole.
Oui, alors c'est très curieux, il est mort 5 jours avant la date prévue pour sa réception solennelle, mais vous savez qu'à l'Académie, le récipiendaire prononce son discours une semaine avant en petit comité, devant un petit groupe d'académiciens, donc il avait fait cela. Et on a jugé qu'il avait été reçu de cette façon-là, puisque le discours était prêt, avait été approuvé par ses confrères. Donc, on considère qu'il a été reçu.
Vraiment reçu.
Et le discours a été publié comme s'il l'avait prononcé sous la coupole.
Et donc, son successeur oui. a pu faire son éloge.
Exactement.
Son
voilà.
successeur, Maître Maurice Reims,
Maître
donc,
Maurice
qui
Reims.
Est le 19e titulaire voilà. de ce fauteuil.
Oui. Oui, qui a été très proche de la bibliothèque de l'Institut parce que pendant de nombreuses années, il a été président de la commission des bibliothèques et archives qui exerce un contrôle et une tutelle.
Vous avez travaillé avec lui.
J'ai travaillé avec lui. C'était un homme absolument délicieux.
Très gai,
naturellement,
je crois, non?
Très subtil, très fin et en même temps toujours très efficace pour nous aider avec délicatesse, agissant toujours quand il fallait avec beaucoup de diplomatie et d'habileté. Donc nous, c'était pour nous un soutien très précieux et humainement un homme naturellement avec une très riche personnalité.
Alors il a écrit un roman dont le titre laisse tout de même songeur, Attila, laisse ta petite sœur tranquille.
Oui.
Je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça donne tout de même envie de le lire. Et le 20e titulaire de ce fauteuil, donc juste avant François Veillargans qui va l'occuper bientôt, donc Alain Robbe-Grillet qui a été élu en 2004.
Voilà, que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer.
Parce qu'il avait fait aussi beaucoup de sa carrière aux États-Unis, je crois. Voilà. Donc François Veillargans, bien, c'est un auteur à la fois français et belge, puisqu'il est né en Belgique, mais qu'évidemment il écrit en français. Il est à la fois écrivain et cinéaste d'ailleurs. Donc le 16 juin 2011, il sera reçu sous la coupole. Voilà, Mireille Passereau, comme je vous l'ai dit au début, cette émission, c'est la 11e de notre série sur les fauteuils. Donc, si vous voulez écouter d'autres histoires de fauteuils, bien, vous avez l'embarras du choix sur Canal Académie. Merci d'être venue, Mireille Passereau. Et puis, j'espère qu'on aura à la rentrée prochaine d'autres fauteuils à examiner. À bientôt et merci d'avoir été avec nous.
À bientôt. Au revoir.